Bonjour chers auditeurs, vous écoutez En Spectateur, c'est le 35e numéro et nous parlons aujourd'hui d'Orlando, pièce jouée en théâtre Cantor les 4, 5 et 6 mars dernier par la compagnie XXY. Pour revenir sur le spectacle, saluons mes chroniqueurs, une voix masculine, Clément.
Bonjour.
Une voix féminine, Maëlys.
Bonjour tout le monde.
Une autre voix féminine jamais entendue dans En Spectateur, Camille.
Bonjour à tous.
Alors, Orlando, c'est un roman de Virginia Woolf, un peu rhabillé en pièce de théâtre pour l'occasion. Déjà, est-ce que quelqu'un ici a déjà lu le roman ?
Non.
Eh bien, c'est parfait, nous sommes complètement vierges de toute impression. Alors, donc, non, on ne jugera pas le spectacle comme adaptation, mais pour lui-même. Alors, le spectacle en question, c'est une fausse conférence où Harriet, née Harry, nous raconte comment deux fois elle a croisé la route d'Orlando. Orlando, c'est un jeune homme né à l'époque élisabéthaine, un séducteur rendu une fois malheureux et qui, au XVIIIe siècle, se réveille un jour, changé en femme. Bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Et on apprend à Orlando ce que c'est qu'être une femme. Et Orlando tombe sur un homme qu'elle épouse, mais qui doit partir. Et c'est très bien ainsi. Orlando continue sa longue vie avec ses amis, et sans avoir besoin d'un homme. Maëlys, c'est toi qui vas nous livrer ton avis sur la pièce, après une virgule. Et quoi de plus cliché que de prendre Sans contrefaçon de Mylène Farmer ?
Un transsexuel svelte et grand, moulé dans une robe blanche très très courte, est assis sur un tabouret devant le rideau fermé. On comprend qu'il traverse le temps et les époques, et il s'apprête à nous raconter sa plus grande histoire d'amour, les yeux remplis d'étoiles. C'est par le biais de ce narrateur, qui se fait appeler Harriet puis Harry, après avoir changé de sexe, que l'on rencontre pour la première fois le personnage principal, Orlando. Un peu plus tard, le rideau s'ouvre et l'on voit Orlando s'ébattre avec une épée contre une fausse tête d'épouvantail suspendue dans une chorégraphie endiablée. Bien qu'elle m'ait semblé bizarrement ficelée au premier abord, mêlant la danse et le théâtre, entrecoupée de jingles de musique plus contemporaine, Métronomie, les Sex Pistols, entre autres, je ne vais pas le cacher, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette pièce. Certes, je n'avais pas lu le roman de Virginia Woolf, je n'avais pas vu les adaptations cinématographiques qui en avaient été faites, donc j'étais à l'abri d'une certaine déception. Je savais vaguement de quoi ça allait parler, de changement de sexe et de changement d'époque. Je me suis même demandé au début si le spectacle ne consistait pas seulement dans le récit d'Harriet, personnage tellement bien interprété dans le ton, dans la gestuelle, dans la manière de marcher en talons, que j'ai cru qu'il s'agissait d'un véritable transsexuel, débauché par Jenner suite à la journée d'études sur les masculinités. Mention spéciale également à la reine Elisabeth Ière, interprétée par un acteur au physique de colosse, qui arborait un long bouc et une grande robe, qui lui allait étonnamment bien. On avait une reine aussi élégante qu'autoritaire qui trônait au fond de la scène et on se demandait vraiment, enfin moi je me suis demandé, ce qui faisait l'autorité de ce personnage. Est-ce que c'était la stature de son interprète, la robe à froufrous, le bouc, les attributs féminins ou les attributs masculins ? La réflexion autour du genre est prolongée avec le personnage d'Orlando, interprété par une comédienne et danseuse qui cultive son apparence androgyne et qui va jusqu'à dévoiler sa poitrine. Quoi, une paire de nichons en Cantor ? Mais que fait l'administration ?
Shocking.
Pour symboliser sa transformation en fille dans une séance de striptease métamorphose très poétique. C'est la même poésie que j'ai retrouvée dans le face-à-face entre Orlando et la princesse russe Sacha, à demi allongée sur des manteaux de fourrure, qui instaurait vraiment une tension sensuelle très troublante pour le spectateur entre les deux interprètes féminines. Les autres interprètes ne déméritaient pas non plus, avec des personnages certes moins nuancés mais qui apportaient une touche de comique à l'ensemble, je pense. En particulier dans la scène d'apprentissage où on lui enseigne en fait les codes de son nouveau genre, de sa nouvelle époque, telle une poupée que l'on dresse. C'est vrai qu'à plusieurs moments je me suis demandé, mais où on va là ? Quoi ? Virginia Woolf a vraiment écrit ça ? Elle a vraiment pensé ça ? Mais à mieux y réfléchir, les anachronismes et la réflexion contemporaine plus générale sur le genre qui ont été accolés à l'œuvre ne m'ont pas heurté. Au contraire, j'ai simplement pensé qu'il poussait juste un petit peu plus loin l'esprit de voyage dans le temps et qu'il pointait du doigt les enjeux inhérents à tout changement de sexe. L'intrigue compliquée, les dialogues très travaillés, certains diront peut-être trop littéraires, contribuent à créer un fil dans l'histoire et à ne pas trop se perdre. J'étais un petit peu déçue par la fin, par contre, qui se termine en queue de poisson, mais je leur pardonne volontiers parce que c'est une pièce qui, moi, m'a vraiment bousculée, entre guillemets. Je me suis posé beaucoup de questions pendant la représentation, sur le genre, sur les codes sociaux, sur moi, sur le monde. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère au théâtre.
Merci Maëlys. Grande réflexion métaphysique. Toi, ouais. Le monde, tout ça.
Ouais, le monde.
Alors, le monde, mais ne disons pas que le monde est un théâtre. Alors, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur la forme de la pièce. Une pièce qui est un peu une pièce dans une pièce avec une maîtresse de cérémonie donc, qui est jouée par Harry Harriet et une série de tableaux qui se succèdent, le rideau qui se ferme régulièrement, le tout sous forme un peu d'une revue cabaret. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette esthétique de cabaret qui mêle beaucoup au théâtre des scènes de danse, de chant, il y a même un peu de beatbox à un moment?
Moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était rythmé, du coup ça donnait beaucoup de rythme à la pièce. Ça permettait de faire des changements de tableau et de les assumer en fait. Et je trouvais que du coup ça donnait quelque chose de tout à fait regardable et
regardable.
De très sympathique en fait.
D'accord. Et toi Camille?
Oui, alors écoute, moi j'ai été très surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce genre d'esthétique, même si je me suis aperçue par la suite que la compagnie revendique cet apport du cabaret à son travail. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça rendait le spectacle beaucoup plus rythmé, beaucoup plus agréable. C'était surprenant, mais dans le bon sens, et ça donnait du punch à tout ça. Et bon, le choix, bien sûr, des musiques anachroniques allait très bien dans l'histoire.
Enfin, anachronique ou pas, parce qu'il y avait quand même du Tchaïkovski très très réorchestré, je crois, à un moment.
Ouais.
Et alors du coup, enfin, vous avez trouvé ça bien fait parce que c'est un peu facile de dire, voilà, on est des acteurs, mais on va se prêter au jeu de la danse, de la chanson, etc. Est-ce que vous avez trouvé ça plutôt bien fait? Il y a une scène de chant à un moment, par exemple, la chanson sur le bateau.
Ah oui, bah on voyait bien que c'était ni des danseurs ni des chanteurs, mais je trouve que c'était intéressant. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément très bon en danse ou très bon en chant qu'il faut s'interdire de recourir à ces arts-là et à cette esthétique-là, donc moi ça m'a pas gênée parce que je trouvais qu'il y avait quand même une grande cohérence dans l'ensemble.
Bah, honnêtement, je me demande si certaines des actrices n'étaient pas des danseuses parce que ouais. Je les ai trouvées plutôt à l'aise avec l'exercice.
Alors, tu parlais, Maëlys, dans ta chronique du personnage d'Ariette qui est donc la maîtresse de cérémonie dans cette histoire. Alors, un personnage de travesti. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, c'est vrai que je l'ai trouvé peut-être un peu exagéré. Toi, tu l'as trouvé très juste. Je sais pas ce qu'en pensent Clément et Camille.
Moi, le personnage d'Ariette m'a pas plu du tout, au sens où je trouvais que son jeu était très bien, mais le personnage et ce qu'il apportait dans l'histoire ne m'a pas du tout convaincu. En fait, j'ai eu le sentiment que les moments où Ariette parlait, c'était prétexte à cacher le plateau pour permettre les changements de décor et les changements de scène, en fait. Et voilà, le personnage m'a pas du tout enthousiasmé, malgré le jeu de l'acteur qui était vraiment très bon.
D'accord, donc t'as pas forcément vu l'utilité du personnage, un personnage simplement prétexte, en fait.
Oui, c'est ça.
D'accord, parce que je sais que dans le roman de Virginia Woolf, à l'origine, c'est un personnage qui est présent dans le roman, mais de manière quasiment un peu anecdotique, et que son rôle a été développé volontairement par
la pièce.
Celle qui a réécrit la pièce et qui l'a adaptée pour le théâtre, qui est Capucine. Et toi, Camille
Mais en fait, c'est un peu l'inverse. J'ai pas forcément beaucoup aimé le jeu du l'acteur, pas parce que l'acteur était mauvais, mais parce que bon, forcément, c'était un rôle de travesti très caricatural, qui surjouait beaucoup la féminité, ce qui était certainement voulu, mais qui m'a pas plus que ça. Par contre, je trouvais ça intéressant d'avoir un narrateur extérieur. Enfin, mais là, c'est plus pensé en termes d'adaptation. Mais donc, Virginia Woolf fait partie du courant de conscience. C'est lié d'avoir comme ça cette voix qui était comme un fil directeur, qui nous permettait d'avoir une focalisation sur toute l'histoire. Je trouvais ça assez intéressant au théâtre. C'était une expérience nouvelle. Et non, c'est assez réussi pour moi.
Moi, juste, je voudrais. Enfin, même si c'était un peu peut-être caricatural dans le jeu, je trouvais qu'il y avait quand même une certaine émotion dans ce personnage-là quand il parlait d'Orlando. Enfin, on voyait vraiment qu'il avait les yeux qui pétillaient. Et,
surtout dans ce mambo endiablé. À un moment.
Ouais, voilà. Et enfin, je trouvais que ça apportait beaucoup de profondeur, en fait, d'avoir aussi ces deux voix-là et puis d'être introduit à Orlando. Enfin, d'introduire Orlando à nous, pardon.
Introduite à Orlando.
Tu as vraiment beaucoup vécu la pièce.
mais voilà, d'avoir cette espèce de recul par un narrateur un peu externe, je trouvais ça intéressant.
D'accord. Est-ce que c'est pas dommage un peu justement que Orlando nous reste toujours un peu extérieur comme ça? Orlando franchit jamais le quatrième mur et reste dans le monde du cabaret. Est-ce que c'est pas un peu dommage aussi qu'on soit jamais confronté vraiment à ce personnage?
Non, c'était plutôt bien pour moi de le laisser loin parce que c'était un personnage qui était hors norme à tous les niveaux. Il était trop beau. Il change de sexe de manière absolument inédite. Il devait rester loin parce qu'il est. On peut pas s'identifier à lui. Alors qu'Ariette, avec ses défauts un peu ridicules, des fois, c'était plus facile pour un spectateur peut-être de le comprendre, je ne sais pas.
Je suis assez d'accord avec Camille, en fait.
Alors, on va revenir sur une scène qui a laissé pas mal de monde perplexe, je crois. Je veux bien sûr parler de la scène du Candy Mouche Club. Alors ça, je ne suis pas allée vérifier si c'était dans le roman de Virginia Woolf. J'ai quelques doutes, mais bon, encore, hein, on ne sait jamais, hein, franchement. Alors voilà, donc pour les auditeurs qui n'auraient pas vu la pièce, c'est une scène qui intervient de manière complètement what the fuck dans la deuxième partie. Oui, oui, oui. Ariette vient sous sa forme masculine, donc sous la forme d'Harry, habillé en homme, pour proposer à Orlando de l'épouser. Et Orlando refuse, et pour gagner du temps, lui propose de jouer à un sympathique petit jeu qui consiste à disposer deux sucres sur une table, à choisir l'un des deux sucres, et on attend qu'une mouche vienne se poser sur le sucre, et le premier qui a une mouche qui vient se poser sur son sucre a gagné. Jeu auquel Orlando triche de manière effrontée, etc., en utilisant une tapette à mouche, enfin bref. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette scène-là? Est-ce que ça s'intégrait bien dans l'ensemble, ou est-ce que ça vous a laissé complètement perplexe?
Alors, moi, ça ne m'a pas plu du tout.
Vas-y.
Je commençais déjà à décrocher de la pièce à ce moment-là, et ça m'a achevé. J'ai pas compris pourquoi tout d'un coup il y avait cet humour absurde qui venait se plaquer là comme ça, alors qu'il n'y en avait pas spécialement eu avant. J'ai trouvé que ça faisait perdre encore plus de rythme à la pièce, qui, à mon sens, on avait déjà perdu beaucoup lors de la scène où on apprend à Orlando à être une femme. C'est une scène qui était très longue, que j'ai pas toujours trouvé très réussie. Du coup, je trouvais que cette scène-là avait déjà fait perdre beaucoup de rythme à la pièce. Et alors, la scène du Candy Mouche, j'ai pas du tout compris ce qu'elle venait faire là, ce qu'elle venait apporter à l'intrigue.
D'accord. Ce que t'es en train de dire, c'est que la deuxième partie de la pièce était moins bonne que la première.
Oui, j'ai trouvé.
Et vous, les filles, vous en avez pensé quoi?
Moi, je me suis demandé si c'était une invention de Virginia Woolf ou pas. Et
on fera une enquête.
On fera une enquête.
Là,
si
franchement, c'est quand même très intriguant.
Bon, ça, voilà, j'ai trouvé ça rigolo comme ça sur le coup, mais ça m'a pas dérangé en fait dans le reste. Je pense que j'étais encore restée sur les scènes que j'ai appréciées vraiment.
Je suis peut-être très bon public, mais moi, ça m'a fait énormément rire. Je sais pas, déjà Candy Crush, Candy Mouche, enfin, je trouvais ça bien trouvé. Donc, si Virginia Woolf l'a inventé, bon, bah, mon analyse s'effondre, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et je sais pas, les acteurs étaient bons à ce moment-là pour moi. Et je crois que je vais jouer tout le contrepoint de Clément pour cette émission. Parce que justement, moi, c'est la scène de changement de sexe où il y a donc une série de figurants qui symbolisent la société, qui est en train de corriger la posture, les manières d'Orlando devenue femme. C'est ma scène vraiment préférée. Je l'ai trouvée, enfin, juste d'un bout à l'autre. Donc, c'est vrai que j'avais peut-être pas la même impression que toi, déjà d'avoir un peu décroché. Ce qui fait que, vu que j'étais déjà dans une très bonne impression, Candy Mouche m'a juste semblé un interlude très amusant et ça m'a plu.
D'accord. Alors, cette scène du changement de sexe, justement, je crois qu'on est plutôt d'accord pour dire qu'elle est en deux parties. Il y a d'abord cette partie qui est, à mon sens, très belle. Vous me direz après ce qu'il en est de votre côté. Très chorégraphiée, très esthétisée, où on déshabille Orlando comme si c'était une poupée, on la rhabille. Enfin, on le déshabille, on la rhabille en femme. Et ensuite, la scène se poursuit. Non, je dirais même qu'il y a trois temps. La scène se poursuit ensuite. Le personnage, on lui apprend à marcher comme une femme, à avoir une démarche, une attitude de femme. Et ensuite, on lui apprend à avoir un comportement de femme, des réponses sociales de femme en particulier. On la met en situation. Que doit-elle faire dans un bar? Que doit-elle attendre d'un homme dans la vie, etc. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette transformation en trois volets?
Alors, je vais les prendre dans l'ordre, du coup.
Mais allons-y, chronologiquement, puisque nous sommes des historiens.
Alors, le premier volet où Orlando se fait déshabiller, c'est très chorégraphié, il y a une lumière particulière, il y a la musique qui vient avec. Moi, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que là, ce qui était intéressant, c'est que la nudité venait pas, comme ça arrive parfois, juste pour foutre de la nudité et pour choquer le public. C'était vraiment au service d'un travail esthétique et moi j'ai trouvé ce passage-là vraiment très beau et très réussi.
Oui, d'autant que ça permet de voir un certain nombre de ficelles qu'ils ont utilisées, à savoir par exemple qu'ils ont bandé la poitrine de l'actrice pendant toute la première partie de la pièce pour la faire ressembler le plus possible à un homme, par
voilà,
exemple.
Voilà, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais ça a dû lui faire très mal, enfin, d'avoir la poitrine bandée comme ça pendant plus d'une demi-heure. Ensuite, la deuxième partie, quand on apprend à Orlando à adopter une démarche de femme, bah ça, moi j'ai trouvé ça aussi très réussi. Je trouvais ça vraiment juste. Et la dernière partie, en fait, ce qui m'a ennuyé, c'est que c'était long. Et même si évidemment ça sonnait juste, j'ai trouvé que c'était vraiment interminable et que ça déconnectait en fait des intrigues amoureuses développées précédemment et reprises par la suite après, et que c'était vraiment un interlude beaucoup trop long pour être efficace. Moi, c'est vraiment ma réserve sur cette scène-là.
D'accord, mais dans l'ensemble, tu l'as trouvé juste?
Dans l'ensemble, je l'ai trouvé juste.
Moi, je suis assez d'accord avec Clément, même si moi, je me suis pas dit que ça traînait en longueur. Tout me faisait pas forcément rire de manière égale, mais j'ai quand même trouvé que ce moment était vraiment très plaisant et apportait vraiment une touche comique à l'ensemble. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Après, j'ai pas trop vu les codes sociaux du XVIIIe siècle. Je sais qu'elle est censée changer de sexe. Au XVIIIe siècle, pour moi, c'était plutôt maintenant.
Oui, mais ça, je pense que c'est une espèce d'anachronisme.
Anachronisme qui était voulu, et je trouvais ça un peu bizarre au niveau du... Mais voilà, ça m'a pas heurté plus que ça.
Mais non, je suis assez d'accord avec, avec Maëlys dans ce cas-là. C'est... Oui, la scène était longue, mais c'était quand même un peu le cœur du propos et la partie la plus adaptée, certainement. Puisqu'ils ont voulu que le spectateur puisse reconnaître sa propre expérience. Enfin, c'était une femme, mais on...
D'accord, elle n'était pas trop caricaturale ni rien.
Je n'ai pas trouvé ça caricatural. Forcément, si, parce que c'était. Ils voulaient montrer des situations type. Un petit peu, donc bien sûr que le réel est plus complexe, mais c'était bien représenté.
On t'a déjà proposé des caipirinhas dans un bar, c'est ça?
A. Vous refusez. B. Vous acceptez.
Alors voilà, d'une manière plus générale, dans cette pièce, on a mise en scène de genre et de refus de genre. On a beaucoup d'acteurs et d'actrices travestis qui interprètent indifféremment des rôles masculins et féminins. On a cette mise en scène du changement de sexe. Et on a cette fin très très brutale d'Ariet qui déclare « Oh, je ne vois pas ce qu'il y a à conclure de tout cela ». Et ça se termine, bam, rideau. Comment est-ce que vous comprenez cette fin?
Moi, je la comprends pas. Enfin, je l'ai pas compris. Enfin, je s'est arrêté comme ça. Après, j'ai eu l'impression que... Enfin, moi, j'avais eu mon compte dans le reste de la pièce. Enfin, j'avais déjà... Il y a pas mal de passages que j'avais bien appréciés, que j'avais bien accrochés. C'est vrai que la fin, sur la fin, la rencontre entre Harry et Orlando, je trouvais que ça traînait un peu en longueur. Même si, voilà, le Candy-Mouche était rigolo, mais ça apportait pas non plus à l'histoire. Et du coup, ça arrivait comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, la fin. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais ça m'a pas plus dérangé que ça parce que j'avais l'impression qu'on avait déjà tout dit en fait sur le propos. En fait, on avait déjà vraiment poussé à fond la réflexion. Ça a pas entaché mon jugement sur la pièce, quoi.
Oui, c'était peut-être le moment de conclure, mais peut-être pas comme ça. Enfin, c'était vraiment extrêmement brutal. C'était voulu, bien sûr. Mais voilà, moi, ça m'allait très bien que la pièce s'arrête à ce moment-là. Enfin, voilà, on a vu notre compte, mais un tout petit peu plus de douceur de transition ou peut-être un petit apport final. Même en laissant la fin ouverte, en laissant au spectateur le choix d'interpréter, ça, d'accord. Mais oui, ça m'aurait pas dérangé que ce soit un peu mieux amené tout de même.
D'accord. Alors je remarque que toutes les deux, vous dites, on a eu notre compte. Alors notre compte de quoi? On a eu notre compte de genre? On a eu notre compte de...
Moi, mon compte de réflexion, en fait. Enfin,
d'accord.
C'est...
Est-ce que, alors ça, voilà, c'est un point que sur lequel j'aimerais bien revenir quand même. Vous pensez que les intentions de la pièce, c'était quoi? Est-ce que c'était simplement de présenter des questions de genre? Est-ce que c'était de démonter des clichés? Comment vous le voyez, vous? Parce que moi, j'ai vraiment pensé que c'était simplement une exposition plasticisée et esthétisée de ça. Pour en avoir discuté avec des amis, je sais que d'autres ont trouvé que la pièce cherchait à dégonfler des clichés et qu'elle ne le faisait pas forcément très bien. C'est pour ça que je trouverais que cette conclusion, je ne vois pas ce qu'il y a à en conclure, pas si extraordinaire que ça. On vous a démontré quelque chose de, enfin, on vous a montré quelque chose de beau pendant toute la pièce. Voilà, il y a rien à en conclure parce qu'une œuvre d'art ne se conclut pas, quoi. Comment vous voyez ça, vous?
Moi, j'ai un peu eu le sentiment qu'à un moment, on voulait nous imposer une réflexion, c'est-à-dire toujours dans la scène où on lui fait travailler sa posture et son comportement féminin. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une dimension de réflexion qui arrivait à ce moment-là, un peu brute, du genre « maintenant, spectateur, tu vas réfléchir un peu », qui n'était pas présente au début de la pièce. Voilà, je pense que si ça avait pu être peut-être présent dès le début de la pièce, cette dimension-là, ça aurait été moins gênant. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette différence de perception.
Moi, en fait, c'est assez marrant, mais je n'ai pas trouvé que la scène de transformation au milieu, c'est pas non. Enfin, j'ai trouvé ça drôle sur le coup, mais j'ai pas. Enfin, je pense que comme c'est la charge militante, entre guillemets, sur le genre. Comme c'est un peu du vu, du revu, on a eu la pièce sur le féminisme, on a eu quelque chose qui est assez récurrent, je trouve, dans les pièces de théâtre. Du coup, j'ai pas plus prêté plus attention que ça. Ce que j'ai plus aimé, en fait, qui m'a plus fait réfléchir, c'est tous ces petits détails scénographiques, en fait, dans les moments très poétiques, très sensuels, etc. Je me posais vraiment des questions, en fait, des choses que j'avais jamais remarquées. Et c'est plus ça. Après, la charge militante au milieu, avec cette fameuse scène de métamorphose, etc. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu caricatural, etc. Mais comme c'est un discours qu'on entend assez régulièrement, ça m'a pas plus dérangé que ça, en fait.
Non, moi j'ai vu une charge militante, mais qui était totalement assumée, et, enfin, rien que par le choix de l'histoire. Enfin, voilà, c'est Virginia Woolf déjà, un homme qui se change en femme. Enfin, déjà, il y avait cette charge-là est présente dans la pièce originale. Et après, je crois qu'ils ont assumé cette idée de voilà, la masculinité ou la féminité sont des costumes. Et en plus, dans le monde du théâtre, ça c'est intéressant à appliquer. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut trouver que on peut ne pas être d'accord avec voilà, a priori l'orientation de la compagnie. Mais je pense que c'était assez clair que c'est ça qu'ils voulaient présenter et défendre, et ils le font assez bien. Après, on peut bien sûr discuter. Hein, mais...
Très bien. Alors, un petit mot pour conclure. Rendriez-vous une nouvelle visite à l'immortel Orlando si je vous proposais de retourner au théâtre, Camille?
Sans hésiter, oui.
Mais... Moi, oui, oui.
Et Clément?
Moi, je pense aussi.
Merci à tous les trois. We'll be right back. Chers auditeurs, vous venez d'entendre, comme virgule, de manière exceptionnelle, un extrait de la bande-son du film tiré de ce même roman de Virginia Woolf, Orlando, qui était sorti en 1992 et qui est un film de Sally Potter. C'est la fin de ce numéro d'En Spectateur, je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie Camille, Fuge, Trans, Fuge, Maëlys, sans contrefaçon, et Clément, Libertine. Oui, c'est comme ça que j'appelle un échangiste qui chronique en même temps qu'il fait la technique. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'En Spectateur à l'ENS. Il portera sur Amadeus et sur l'histoire du communisme racontée aux malades mentaux, deux spectacles proposés par la branche bâtarde à la fin du mois d'avril. La branche bâtarde a besoin de votre soutien financier, pensez bien à faire vos dons via le site d'Enseigne. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
En Spectateur.